Je vous propose ce soir une réflexion sur ce que nous employons peut-être le plus dans l'exercice de la méditation, c'est la pleine conscience. Sati en pali. Et ce n'est pas seulement l'attention, mais c'est l'attention, c'est sammasati, c'est-à-dire l'attention qui permet au corps et à l'esprit, à l'intérieur et à l'extérieur, de s'unifier. Le but d'employer la pleine conscience, c'est l'ouverture du cœur, c'est la non-séparation entre moi et l'autre, entre moi et moi. Et nous apprenons à être avec l'expérience pour pouvoir la lâcher. Nous apprenons en utilisant la pleine conscience, ce que nous voyons, c'est que les choses changent, que chaque objet de conscience a un début, un temps de vie et une fin, et que ce qui crée la souffrance, c'est le manque d'intimité avec l'expérience qui fait que je me projette non pas dans l'expérience telle qu'elle est, mais dans ce que j'en pense. Et nous nous perdons dans ce que nous pensons de moi, de l'autre, et bien sûr dans l'exercice de la méditation, de ma pratique. Et lorsque j'enseigne le Satipatthana Sutta ou le Sammasati, j'aime lire dans le texte parce que le Bouddha est particulièrement pointu dans sa manière de proposer la contemplation du corps et de l'esprit. Et il dit ça, bhikkhu, ce sont les moines. Voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité, du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Et quels sont ces quatre fondements? Ici et maintenant, bhikkhu, le disciple contemple son corps comme un corps, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un corps, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. C'est le premier fondement. Le deuxième, c'est la même contemplation par rapport au ressenti. Nous ressentons des choses agréables, désagréables et neutres. Le troisième fondement, c'est la même conscience par rapport à l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui émerge dans le champ de conscience, autant au niveau des émotions qu'au niveau des pensées, qu'au niveau des discernements. Et le quatrième des fondements, c'est le lâcher-prise de tous les outils spirituels que nous avons patiemment, consciencieusement mis en place et qui, à terme, ne sont plus utiles, puisque le corps et l'esprit peuvent simplement recevoir l'expérience. Nous n'avons plus besoin de nommer les obstacles ou de nommer les facteurs de l'éveil, de nous souvenir de l'impermanence. C'est incarné dans le corps. Et quand le Bouddha dit c'est le chemin direct pour la purification des êtres, à chaque fois que la conscience reçoit l'expérience telle qu'elle est, que ce soit le corps, inspire, fin de l'inspire, expire, fin de l'expire. Que ce soit un moment émotionnel intense, un moment de colère ou de tristesse. Que ce soit la pensée, et que ce soit une pensée jugeante ou une pensée altruiste, je peux contempler, ah là il y a pensée, C'est une pensée bénéfique ou non bénéfique. À chaque fois que je fais ce travail-là, il y a une purification de l'être. Et dans l'exercice de la méditation, nous acquérons une compétence, c'est-à-dire de savoir employer la pleine conscience ici et maintenant. Mais ça ne veut pas dire que l'expérience devient forcément agréable. Nous avons beaucoup de karma à purifier. Donc, suivant les conditions, suivant avec qui nous sommes, suivant ce qui se passe à l'extérieur, dans nos vies, ou à l'intérieur, dans nos souvenirs, nous sommes mis au défi. Et si je peux patiemment recevoir l'expérience, ne pas le prendre personnellement, voir que ça a débuté, c'est en train de se passer, ça aura une fin, alors le processus de purification est à l'œuvre. Et c'est très important de se souvenir, quand nous sommes au défi, que nous perdons nos repères, qu'il y a de la confusion, qu'il y a peut-être du désespoir, ou en tout cas un sentiment de dévalorisation, peut-être. Se souvenir, c'est pas qu'il y ait une erreur quelque part. C'est ok, c'est l'expérience ici et maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? C'est ça qui est primordial. Ça n'est pas de changer l'expérience. De toute manière, la vie n'est pas parfaite. L'expérience douloureuse, elle va venir. C'est sûr. On va tous devoir mourir une fois. Je parlais de ça avec mon petit-fils l'autre jour. Je lui disais, parce qu'il y avait un pêcheur qui tuait des poissons. Et puis, il dit, mais c'est mal fait ces poissons. Je dis, ouais, c'est mal fait. Mais tu vois, ils naissent au ciel. Ok, ils sont morts à ce monde, mais ils naissent au ciel. Alors on a une grande discussion à ce sujet. Mes parents qui sont très âgés, alors à Jean-Pierre et Simone, ils vont mourir bientôt, mais ils vont naître au ciel. Puis à un moment donné, il dit, ben moi, tu sais, je suis content parce que je suis petit, je vais naître au ciel dans longtemps. Et c'est vrai que être dans ce processus de confiance dans l'expérience ici et maintenant. Ok, juste maintenant, il y a ça. Si c'est bon, c'est bon. Hein, profitons-en. La vie a tellement de beaux moments que nous ne savons pas reconnaître non plus, forcément. Juste maintenant. C'est tellement bon, nous. On n'a pas faim, on vit dans un pays où tout est en sécurité. On sait qu'on va rentrer chez nous, on n'aura pas froid. On est en bonne compagnie, on n'a rien besoin de faire que de s'enrichir intérieurement. Mais qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux? Et pourtant, nous nous asseyons pour une demi-heure, nous fermons les yeux et que vivons-nous? Est-ce que c'est l'extase total, perpétuel. Ce processus de purification se passe. Et quand le Bouddha dit que c'est le chemin direct pour surmonter les pleurs et les lamentations, il pointe à cette responsabilité qui est la nôtre. Il y a des choses que nous pouvons changer, faisons-le, si nous pouvons changer certaines choses dans nos vies. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer. Et de s'inquiéter lorsque les choses sont à accepter, c'est juste inutile. L'inquiétude fait partie du monde. Le corps et l'esprit est tellement vulnérables que tout d'un coup de s'inquiéter, c'est parfaitement naturel. Mais nous n'avons pas à le prendre personnellement. C'est juste un moment d'inquiétude. Waouh, là il y a l'inquiétude. Et plutôt que de me lamenter et de pleurer, de me chagriner sur mon sort ou le sort d'autrui ou le sort du monde, avec l'exercice de la méditation et la pleine conscience, je peux revenir ici et maintenant. Et quand je suis là, ici et maintenant, je fais ma part. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire. En fait, c'est grand. C'est même très grand. Et je contribue à mon propre bien-être, mais je contribue beaucoup au bien-être du monde. Lorsque j'arrête de projeter des choses différentes de ce qu'elles sont, mais que je travaille le comment je reçois tout ça. Est-ce que je suis dans la bienveillance et dans la compassion? Est-ce que je suis sensible à ma peine juste maintenant? Ou est-ce que je la tiens soigneusement à distance? Et c'est ça que nous apprenons. Venir dans l'intimité sans être submergé. Je peux ressentir l'expérience avec sagesse. C'est-à-dire que elle est au fond pas plus à moi que si elle émergeait dans le corps et l'esprit de quelqu'un d'autre. Il y a contempler le corps comme un corps, contempler les émotions comme des émotions, contempler mes pensées comme des pensées. Est-ce que vous savez ce que vous allez penser dans 10 minutes? Les pensées émergent. Elles émergent. Qu'est-ce que j'en fais? Évidemment, si je veux vraiment choisir de penser quelque chose, je peux. Mais la plupart du temps, elles émergent sans que je le choisisse. Ça vient. La disparition de la douleur physique. Certains grands maîtres comme Ramana Maharishi ou le Christ ont témoigné dans leur corps de cette possibilité d'être au-delà de la douleur physique. Et c'est important d'avoir ça comme pas comme idéal, mais comme témoignage du chemin à parcourir. Le corps physique n'est là que pour porter l'esprit, et si le corps physique va mourir à terme, l'esprit peut être libre. Et il peut être libre ici et maintenant. Et lorsque nous travaillons avec la douleur physique dans l'exercice de la méditation, dans l'assise, quelquefois j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je fais? Quelquefois le corps tombe vraiment malade et il y a un défi majeur en lien à la douleur. Est-ce que j'emploie cette douleur pour grandir, pour libérer l'esprit? Ou est-ce que je me fixe en opposition et que je crée une souffrance sur la souffrance? Et ça, c'est un domaine que chacun doit explorer individuellement. C'est une grande chose. Et là encore, la compassion est tellement importante. Et la gratitude, parce que juste maintenant, ok, le corps, il est ok, il n'est peut-être pas parfait, les jambes sont peut-être un petit peu comme ci, comme ça, mais enfin, en gros, ça va. Il y a toujours des moments, ou en tout cas des endroits du corps, où, mais ça va bien, à cet endroit-là, ça va bien. et la détresse mentale, la disparition de la détresse mentale, c'est cette possibilité de libérer l'esprit de l'emprise conceptuelle. Libérer l'esprit, c'est vraiment passer du moi au centre avec mes problèmes à ok, je suis, mais il n'y a pas que moi. D'une certaine manière, un esprit libéré, il est attentif à l'autre, il est attentif au monde, il a compris le fonctionnement de ce corps et de cet esprit. Ok, il sait. Première vérité, les choses ne sont pas parfaites, quelquefois. Deuxième vérité, si je me mets en opposition avec ce réel-là, je vais vraiment souffrir. C'est la soif, l'attachement à ce que les choses soient comme je les veux. Ça ne marche pas. Ou peut-être que ça marche un moment, mais nous sommes rattrapés. Et le Bouddha parle de couper la souffrance à la racine. Je peux lâcher ce sens du moi tout petit. Et le moi peut devenir quelque chose de tout réceptif, de sensible, d'ouvert, de bon, simple, humble, mais bon. Plutôt que de nous perdre dans nos ambitions, dans nos désirs, dans nos frustrations. La libération ou la disparition de la détresse mentale. Et pour ça, c'est important de commencer dans l'exercice de la méditation par libérer l'expérience des commentaires. Vous avez remarqué, je viens m'asseoir, il y a un truc qui se passe, du bruit dehors, ou bien peu importe, une pensée, et hop, ça y va. Ah ouais, mais quand même, vous avez remarqué? Libérer l'expérience des commentaires. Une expérience de colère, c'est simple, il y a un contact, ça fait poup, et puis ça redescend, si j'en fais rien. Mais si j'en fais quelque chose, ça fait poup, quick, et alors il y a le ressentiment, il y a la justification, il y a l'explication, il y a la dévalorisation, il y a la critique, il y a le fait que moi j'ai raison, l'autre a tort. Mais si je peux être dans l'expérience pure, la colère, c'est juste une énergie. Et si je peux voir, poum, colère, que j'ai suffisamment de sagesse pour la laisser, pour voir la fin, ah ouais, courque, fin de la colère, ok. Si je ne peux pas, eh ben ce que je vois, c'est pouf, colère, pouf, saisie, ouais, mais quand même, machin. Ok, ça c'est quoi, ressentiment? Quelquefois ça dure longtemps, le ressentiment peut durer très longtemps. Et c'est vraiment tellement important de voir. Et de ne pas... de faire confiance à ces énergies de l'ombre. Ok, il y a du ressentiment, c'est pas que je sois mauvaise. Ok, je me justifie. Ah ben, je me justifie. Mais de le voir, parce que si nous ne le voyons pas, tout ça continue. Et étant donné qu'il y a une inconscience de l'expérience ici et maintenant, le processus de purification nous échappe. Et c'est toujours à refaire. Parce qu'il y a un nouveau contact et la même, le même truc qui s'éveille. Même truc. Nous tenons à nos points de vue, quelquefois avec ténacité, et alors c'est difficile à lâcher. Mais si je vois que je tiens, je suis à moitié sauvée. c'est Ajahn Sumedho qui dit: beaucoup de souffrances et de malheurs surviennent lorsque vous tenez pour vrai chaque pensée qui vient en tête. Ce ne sont pas les situations qui rendent malheureux. Elles peuvent vous causer de la douleur physique, mais sans plus. Ce sont vos pensées qui rendent malheureux, vos interprétations, les histoires que vous vous racontez. Les pensées que j'ai à présent me rendent malheureux. Cette prise de conscience rompt votre identification inconsciente à ces pensées. Et ça, c'est le troisième fondement de la présence. Comment nous libérer de cette emprise conceptuelle. Et dans le Satipatthana Sutta, il est dit, si l'esprit est contracté, c'est juste un esprit contracté. Si l'esprit est distrait, il est juste distrait. S'il est exalté, c'est juste un esprit exalté. S'il est bien concentré, c'est juste un esprit bien concentré. S'il est affecté par le désir, c'est juste les choses telles qu'elles sont. S'il est libéré, c'est aussi juste les choses telles qu'elles sont. Et ces choses-là changent. Donc, venir dans l'attention pure, c'est d'abord libérer l'objet de conscience des commentaires et ensuite avoir le courage de voir l'aversion sans aversion, de voir le désir sans désir, de voir l'expérience sans croire que je suis l'expérience. Si j'étais l'expérience, je pourrais juste pas vivre, parce que nous sommes tellement d'expériences différentes dans une journée. Toutes ces expériences arrivent et passent. Arrive et passe. Et je suis quoi dans tout ça? Je suis, en tout cas, ce qui peut contempler. J'ai cette compétence de contempler l'expérience ici et maintenant. Vous le faites? Juste maintenant? C'est extraordinaire. Parce que c'est tellement bon. Juste de sentir vraiment quand deux mains sont ensemble là, c'est vraiment bon. L'inconscience, c'est Thich Nhat Hanh qui dit, le souvenir c'est la lumière, l'oubli c'est les ténèbres. Si j'oublie d'être là, d'une certaine manière je perds ma vie. Donc, le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, et pour la réalisation du chemin de vérité du nirvana, c'est ces quatre fondements de la présence. Premier, le corps. Deuxième, les ressentis agréables, désagréables et neutres. Troisième, l'esprit, tout ce processus qui fait que ça pense en moi, que j'évalue, que je discerne, que quelquefois je suis dans des pensées sages et bénéfiques, quelquefois pas. Et le quatrième fondement, c'est cet ancrage dans un chemin spirituel qui fait que lorsque je suis dans l'assise et que je dors, je ne fais pas que de dire « Oh mon Dieu, je dors !» Mais je dis « Ah oui, ça c'est un des obstacles, c'est la somnolence. » Ok. Ou si je vois que je suis bien concentrée, il n'y a pas juste une forme de vague orgueil plus ou moins conscient « Waouh, je suis bien concentrée !» Ah, ça, c'est un des facteurs de l'éveil. Il y a la concentration. Mm. ou lorsque tout à coup l'expérience devient extrêmement douloureuse, nous pouvons nous souvenir « Je ne suis pas la seule à souffrir. » Premier fondement, première vérité. Respecter l'instant, c'est arrêter de contrôler, c'est reconnaître, oui, il y a ça, c'est s'ouvrir, ok, c'est peut-être désagréable, peut-être, peut-être pas, c'est laisser être, c'est impermanent, mais juste maintenant je peux laisser être, donc je suis en même temps dans cet espace de contemplation et dans cette intimité de l'expérience, et attendre le lâcher-prise. Ça lâche. C'est pour ça que d'être immobile dans l'exercice de la méditation, même si le corps a mal, c'est bon, parce que le corps expérimente que ça change. Alors que si je suis toujours en train de chercher une position confortable, je me prive de faire cette expérience-là. Je finis par une petite parole du cours au miracle, pour ceux qui ont lu le cours au miracle. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je ne peux voir que ce qui est maintenant. Le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Est-ce que je suis là? Et si je questionne est-ce que je suis là, forcément que j'y suis. J'ai au fond pas besoin de donner de réponse. Je suis avec l'expérience, c'est tout, c'est suffisant. Le processus se passe. Il s'agit juste de se souvenir d'être là.